La santé, c'est l'affaire de tous.
Alors vous êtes sur Phare FM Montauban, merci de nous avoir choisi, il est l'heure de parler santé. Alors il a eu droit aux éloges du professeur Leo lors de la précédente émission, comme étant un élève brillant, c'est pour ça qu'il a choisi Phare FM pour parler d'émission. La santé, c'est l'affaire de tous. J'accueille le docteur Edmundo Perea. Bonjour Edmundo, comment vas-tu aujourd'hui?
Très bien Laurent, très bien, et toi?
Ça va, merci. Nous restons à Lyon pour cette émission. Ton invité, le docteur Olivier Révol. Bonjour docteur.
Bonjour.
Vous êtes praticien hospitalier au centre psychopathologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. Hôpital femme, mère, enfant, hospice civil de Lyon. Le sujet d'aujourd'hui va intéresser tous les parents, ou au moins un grand nombre, avec une question: trouble du développement chez l'adolescent. Mythe ou réalité? C'est la thématique du jour. Messieurs, nous vous écoutons.
Parfait, merci beaucoup Laurent. Alors, pas aussi brillant, mais j'étais surtout brillant parce que j'étais entouré des gens compétents. Et Olivier, c'est un de ces personnes-là. Merci beaucoup Olivier d'avoir accepté de participer de notre émission. Avant de commencer à attaquer les questions, est-ce que tu peux te présenter?
Eh bien, merci d'abord de votre accueil. Olivier Revol, je suis pédopsychiatre. Et je dirige un centre de référence pour les troubles d'apprentissage au CHU de Lyon. C'est-à-dire que je m'occupe d'enfants et d'adolescents, je dirais de la toute petite enfance jusqu'à ce qu'ils soient adultes, qui auront des difficultés à la fois de comportement et surtout des difficultés d'apprentissage.
Et effectivement, on va déjà attaquer la première question, parce que c'est un sujet très intéressant. Quels sont les principaux troubles psychiques chez les jeunes?
Alors, les principaux troubles chez le jeune dépendent bien sûr de l'âge. Quand on m'amène un enfant petit, c'est un enfant qui a un retard dans le développement, soit un retard de langage, soit un retard de motricité, soit un enfant qui est instable. Ça, c'est les enfants petits. En fait, pour résumer, ce sont tous les troubles qui mettent l'enfant en difficulté dans sa relation avec la famille ou sa relation avec les apprentissages et à l'école.
Quels sont les moyens de dépistage et de prévention qu'on a actuellement pour ces troubles psychiatriques chez l'enfant et chez l'adolescent? Je sais que la population est vaste, mais est-ce que tu peux résumer un peu par rapport à ces deux types de populations?
Alors, ce qui a évolué avec le temps, et tu vois, c'était pas la même chose au siècle dernier, où on avait tendance à dire que dès qu'un enfant avait des difficultés, c'était plus dans la relation avec ses parents et avec sa maman en particulier. Vous vous souvenez de ce qu'on disait sur l'autisme, ce qu'on disait sur les enfants qui voulaient pas grandir, bref. Actuellement, on est beaucoup plus dans un regard global, en se disant, quand on m'amène, tu vois, le dernier enfant qu'on m'a amené, c'était un enfant de 4 ans qui parlait pas bien. Quand on m'amène un enfant comme ça, en difficulté, je m'interdis, et j'interdis à mes jeunes collaborateurs d'avoir une idée préconçue. Il ne parle pas bien à 4 ans, je dis pas d'entrée de jeu, c'est de la faute de ses parents, ou alors c'est un enfant qui a une déficience. Non, je sais pas, et je sais pas, et ça va te parler en tant que médecin, Edmundo, je ne sais pas tant que j'ai pas évaluer l'ensemble du fonctionnement du gamin. Est-ce qu'il voit bien? Est-ce qu'il entend bien? Est-ce qu'il a un retard? Et on parlera de troubles psychiques quand on aura déjà éliminé toutes les autres causes qui peuvent gêner un enfant pour apprendre. Tu vois? Donc, une approche très médicale, je dirais médico-psychologique, et quel que soit l'âge, même s'il a 12 ans et qu'il ne travaille pas à l'école, je ne veux pas entendre dire « c'est un paresseux ». Avant de savoir s'il est paresseux, ça n'existe pas la paresse, je veux te dire, au fil du temps, parce que ces gamins paresseux, tu les vois dans les à Biarritz, ils sont dans l'eau, ils restent pendant des heures à attendre la vague, tu vois, et là, ils n'ont pas peur du froid ni de quoi que ce soit. Donc, quand un adolescent ne réussit pas à l'école, avant de dire c'est un fumiste, j'essaie de comprendre pourquoi. Je donne un exemple qui est très simple. On voit beaucoup de garçons actuellement, adolescents garçons, qui ont un trouble qu'on appelle un trouble du neurodéveloppement, c'est-à-dire que ils ont un trouble d'attention, ou ils ont une dyslexie qu'on n'a pas bien vue, c'est-à-dire une difficulté à la lecture et à l'orthographe, ou ils ont un problème de graphisme, ce qu'on appelle la dysgraphie, ils n'aiment pas écrire. Ça se fait pas actuellement de pas être conforme. Tu vois comment ils sont les adolescents du 21e siècle. Ils veulent tous être pareils, faire genre comme ils disent sur les réseaux sociaux. Et quand ils n'y arrivent pas parce qu'ils ont un handicap, qu'on n'a pas vu, parce qu'ils sont souvent intelligents et ils ont pu masquer pendant un certain temps le handicap, tu sais ce que font les garçons, ados? Ils s'arrêtent de travailler et ils justifient leurs difficultés scolaires, non pas par un handicap qu'ils ont vraiment mais qui serait insupportable d'accepter, mais par le fait qu'ils ne travaillent pas. Et quand nous, ils tombent sur un médecin ou un soignant ou un psychologue qui dit « bah regardez, pourquoi il n'y arrive pas ? On t'a fait un test de QI. Donc, pour répondre à ta question, il faut faire un test de QI. Regarde ton test de QI. On voit que tu as des points forts et des points faibles. On va essayer de corriger tes points faibles. Donc, pour résumer, un enfant, quel que soit le trouble psychique pour lequel on nous l'amène, ça va du retard de langage au problème alimentaire ou au problème d'apprentissage, une approche globale. C'est un individu et qu'il va falloir évaluer globalement, aussi bien dans sa capacité à voir, à entendre, à bouger, mais aussi à traiter les informations. Et puis ensuite, eh bien, on s'arrêtera sur ce qui est psychologique et psycho-affectif. On peut aussi ne pas avoir envie de travailler parce qu'on est triste, parce qu'on est malheureux.
C'est vrai que tu as parlé, c'est très vaste, et tu as donné quelques points, mais est-ce qu'on peut parler d'une répercussion spécifique qu'on trouve souvent chez jeunes par rapport aux habitudes de jour à jour, par rapport à un jeune qui n'a pas ces mêmes types de difficultés?
Alors oui, je dirais que la première chose à faire en tant que parent, si vous avez un enfant, quel que soit son âge, qui est en difficulté, ou dans les apprentissages, ou dans le comportement, eh bien, d'abord, il faut rechercher s'il y a eu une rupture. Je crois que c'est le truc le plus important. Dire aux parents, jusqu'à Noël, il était bien, et puis là, eh bien, il est en sixième, et puis il a des problèmes de comportement, il y arrive moins bien. Quand il y a une rupture, tu te dis, c'est peut-être plutôt quelque chose qui lui est arrivé, donc tu dois chercher maintenant, et c'est incontournable, du harcèlement, un traumatisme, une agression, quelle qu'elle soit. Et puis, s'il n'y a pas eu de rupture, et que les parents m'amènent un enfant en me disant, depuis toujours, il est en difficulté, là, tu vas plutôt rechercher un problème dans son fonctionnement neurologique, et tu vas faire des évaluations neurologiques.
Est-ce que tu peux parler un peu des troubles des conduites alimentaires chez les jeunes?
Alors, les troubles des conduites alimentaires, on pensait que c'était calmé. Et figurez-vous que, d'ailleurs, comme l'ensemble des troubles psychiques, c'est pour ça que votre émission tombe à pic, tous les troubles psychiques chez l'adolescent et l'enfant se sont aggravés terriblement après le Covid. C'est-à-dire qu'on a vu une augmentation de 40% des troubles psychiques, en particulier chez les filles, en post-Covid, et ça continue. Et quand je te parle de troubles psychiques, c'est des idées noires, des envies de mourir, des scarifications, des troubles du comportement. Et le Covid a amené finalement une rupture, un changement, et puis, on va pas se mentir, une vision de l'avenir qui est beaucoup plus pessimiste chez les adolescents qu'elle l'était au siècle dernier. Donc, des adolescents qui, jusqu'avant le Covid, arrivaient un peu à faire illusion et avec le sport, ils se retrouvaient entre eux, avec des projets pour l'avenir, ils arrivaient à passer outre une certaine morosité. À partir du moment où on les a coupés de ça, où on pouvait plus se retrouver comme on voulait dans la salle de sport ou sur le terrain ou avec les copains, eh bien, on a vu apparaître la tristesse, l'inquiétude. Vous savez, la fameuse éco-anxiété, on n'a jamais vu tant chez l'adolescent. Le nombre d'adolescents qui s'inquiètent pour la planète. Eh bien, va leur faire comprendre qu'il faut travailler à l'école, qu'il faut en baver un petit peu au quotidien. Quand tu sais pas de quoi l'avenir sera fait, c'est bien ça le problème des ados de nos jours. C'est que l'avenir est beaucoup plus incertain et beaucoup plus inquiétant. Donc, c'est plus compliqué d'assurer au quotidien quand on a des difficultés.
Par rapport des comportements à risque, est-ce que tu peux parler un peu de la relation entre les comportements à risque et les troubles addictifs?
Quand tout va bien, tu vas à l'école, tu as des notes correctes, tu as des copains, je sais pas comment vous dites dans vos régions, mais à Lyon, on dit il y a les populaires et puis il y a les autres. Hein. Quand tu n'es pas dans les populaires, quand tu n'as pas de bonnes notes, quand tu n'as pas de source de satisfaction ni au niveau de tes résultats scolaires, ni au niveau de tes relations sociales, tu vas chercher ailleurs. Ils vont tous avoir accès aux jeux vidéo. Ils vont tous un jour ou l'autre rencontrer la cigarette ou l'alcool ou le shit. Sauf que si tu vas bien, tu as pris ton pétard, tu as fumé, tu dis c'est pas mal, mais je prends autant de plaisir à taper dans un ballon ou à me retrouver avec mes copains ou à avoir des relations sociales, je ne reprends pas le pétard. Mais si, à l'inverse, il n'y a que ça qui m'apaise et je n'ai que des moments difficiles et des déceptions par ailleurs, je vais le reprendre. Donc, pour répondre à ta question, qui était très judicieuse, Edmundo, c'est de se dire que c'est pas le produit qui est à risque, c'est la rencontre d'un produit que tous vont rencontrer à un moment donné avec un terrain qui est particulièrement vulnérable et particulièrement fragile. Donc, le conseil à donner aux parents, c'est de dire en amont, avant qu'ils rencontrent le produit, assurons-nous qu'ils ont assez de sources de satisfaction par ailleurs pour ne pas avoir envie de plonger dans les addictions.
Tu as parlé effectivement des écrans, des jeux vidéo. Est-ce qu'il y a une relation entre l'usage des écrans et des troubles psychiques?
Si l'enfant va bien au départ, il va commencer à jouer. Tu sais, la mode, c'était Fortnite. Maintenant, il joue un peu moins à Fortnite. Il joue à Rocket League ou à d'autres choses. Il va jouer. Mais si il a d'autres satisfactions, s'il préfère aller sortir, faire du vélo, voir des copains, il n'y a pas de risque d'addiction. En revanche, et c'est tellement facile comme addiction, c'est l'addiction la plus douce, tout le monde a un ordinateur, un téléphone ou une console à la maison. Si en revanche, il n'a pas de satisfaction à l'extérieur, c'est là que les jeux vidéo deviennent une plaie, si j'ose dire, une il y a la PlayStation, hein, tu vois, mais il y a deviennent un vrai problème pour lui et un vrai problème. Tu sais, on a de plus en plus, ça explose, d'enfants qui veulent plus aller à l'école, ce qu'on appelait la phobie scolaire, qu'on appelle maintenant le refus scolaire anxieux. Bah, nous aussi, hein, je sais pas comment t'étais petit, Mundo, mais l'école, on aimait pas trop ça. Mais sauf que on avait rien de mieux à la maison. Et quand t'avais fait 3 fois le mille bornes et 2 fois le Monopoly, tu retournais voir tes copains. Tandis que maintenant, quand ils ont Call of Duty ou Fortnite à la maison, c'est plus compliqué de les faire sortir. Donc, pour répondre à ta question, oui, il y a un risque de faire trop d'écran, mais ce risque, il est encore plus important si l'enfant n'est pas satisfait de sa vie, de lui-même et de ses relations avec les autres.
Par rapport à nos auditrices, nos auditeurs qui nous écoutent, comment ils peuvent agir face à une agressivité de leur enfant, de leur adolescent ?
Alors, le problème de l'irritabilité, de l'agressivité de l'enfant et de l'adolescent, et surtout du pré-ado et de l'ado, il est double. D'abord, c'est normal. C'est normal qu'à un moment donné, ton enfant, qui était sans problème jusqu'à maintenant, se met à te faire la tête. Quand tu le vois, une maman me disait, mais jusqu'à 12 ans, quand elle me voyait au bout du couloir, son visage s'éclairait. Maintenant, son visage se ferme dès qu'elle me voit. Je dis, c'est normal. Elle me dit, mais quand même, comme disent les ados, on prend cher là actuellement. On déguste avec depuis qu'il a 13-14 ans. C'est très compliqué. On peut plus rien lui dire. Dès le matin, il nous fait la tête alors qu'on est en train de lui faire ses tartines et qu'on va l'emmener à l'école pour que le pauvre chéri, il faut pas qu'il se fatigue. Et alors là, la réponse à donner aux parents, qui s'inquiète, hein, qui me l'amène, et presque il y en a qui veulent me laisser en dépôt vente dans mon bureau en disant, faites-en ce que vous voulez, nous on n'en peut plus, il est odieux avec nous, il a plein d'ingratitude. La question que tu lui poses, elle est très simple, et je la pose quotidiennement, et je l'ai encore posée tout à l'heure. Ok, il est pénible avec vous? Oui. Il râle tout le temps? Oui. Il s'enferme dans sa chambre? Oui. Et il passe pas à table à l'heure, et quand vous l'appelez, il dit j'arrive, et plus il y a de i, plus ça va traîner? Oui. Mais comment est-il à l'extérieur? Et quand la maman te dit, mais c'est ça qui est terrible, docteur, c'est qu'en plus, à l'extérieur, mes amis l'adorent, il est délicieux, donc qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Et là, tu peux leur dire, tout va bien. C'est un signe de bonne santé psychique quand l'agressivité, l'irritabilité est dédiée au milieu familial, mais n'existe pas à l'extérieur. Pourquoi? Ben parce que le concept de l'adolescence, le challenge de l'adolescence, c'est de s'opposer. C'est s'opposer pour exister. À notre époque, tu te souviens peut-être, France Gall, elle chantait « Résiste, prouve que tu existes ». Et donc l'adolescent, il résiste, mais il résiste exactement là où les parents insistent. C'est le principe d'Archimède. Et là, le conseil qu'il faut donner à tous les parents, arrêtez d'insister sur la chambre, ça va être encore plus la pagaille. Arrêtez d'insister sur le look, le pantalon va être de plus en plus déchiré. Arrêtez d'insister sur le travail scolaire, il en fera encore moins. En revanche, ne lâchez rien pour tout ce qui concerne sa santé, sa sécurité. Là, il faut aller au clash, là, il faut dire non. Tu n'as pas le droit de rentrer le soir dans la rue à 7h06 sans faire attention à ce que tu fais. Tu n'as pas le droit de fumer, tu n'as pas le droit de boire, etc. En revanche, lâchez sur les petites choses, les choses pas graves, qui vont finalement polluer l'ambiance. Le nombre de parents qui me disent, mais on explose à la maison parce qu'il passe pas à table à l'heure ou parce que sa chambre est pas rangée. Non, ça vaut pas la peine. Surtout, par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure, les adolescents du 21e siècle qui ont beau jeu de dire aux parents, mais vous avez vu ce qui se passe dans le monde? Vous avez vu l'avenir qu'on a? Et là, vous allez m'ennuyer pour l'état de ma chambre ou pour mon look. Donc, il faut vraiment qu'on prenne conscience de ça en tant que parent en se disant, ne mélangeons pas ce qui est grave et ce qui n'est pas grave, parce que sinon on n'est pas crédible.
On parle souvent de hyperactivité. Et c'est vrai qu'on a une tendance à tout mettre sous la hyperactivité. Est-ce que il y a une augmentation de la hyperactivité? Est-ce que le diagnostic est fait d'une façon plus précoce? Ou est-ce que vraiment la société s'apprête à voir des enfants hyperactifs? Quel est ton aperçu par rapport à ta pratique clinique?
Alors l'hyperactivité, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet et la première chose à se dire, c'est que quand on m'amène un enfant de 8 ans, où les parents me disent « il est hyperactif, j'ai vu qu'il y avait peut-être un médicament, mais on a peur, on ne sait pas, etc. », je leur dis « attendez, je vais vérifier. Oui, votre enfant, il est hyperactif. Maintenant, ne perdez pas de vue que l'hyperactivité, ce n'est pas une maladie, c'est un symptôme. Si vous amenez votre enfant avec de la fièvre, je ne vais pas vous dire tout de suite, eh ben on va lui donner des antibiotiques. Je vais regarder ses oreilles, palper le ventre, regarder sa gorge, et je vais vous dire, voilà pourquoi il a de la fièvre et voilà ce qu'on va faire. Eh bien, pour l'hyperactivité, c'est la même chose. Un enfant de 8 ans qui bouge, il bouge parce que peut-être il est inquiet, il bouge parce que peut-être il est déprimé, il bouge parce que peut-être il s'ennuie à l'école, parce que soit c'est trop dur, soit c'est trop facile. Il bouge parce que à la maison, il comprend pas la violence qu'il peut y avoir et puis il manque de cadre. Et puis, il peut bouger, et c'est le dernier cas, mais tu vois que c'est comme un entonnoir. Après avoir éliminé toutes les autres causes, il bouge parce qu'il a un trouble qu'on appelle le TDAH, trouble déficit d'attention avec hyperactivité. C'est un problème neurologique. Mais tu vois, c'est la même le même concept que ce qu'on évoquait depuis tout à l'heure. Un enfant qui bouge, je n'ai pas d'a priori théorique, et ça peut être aussi bien un enfant déprimé qu'un enfant anxieux, qu'un enfant à haut potentiel ou qu'un enfant dyslexique, qu'un enfant mal élevé, il y a des enfants qui bougent qui sont mal élevés, ou un enfant qui a un trouble du neurodéveloppement. Et ceux qui ont un trouble du neurodéveloppement, qu'on appelle le TDAH, c'est la partie frontale du cerveau qui marche moins bien, pour lequel on discutera du médicament. Mais vous voyez, tu vois, il n'y a que cette cause-là qui va justifier qu'on donne un médicament. Il faut faire une démarche diagnostique, comme devant n'importe quel symptôme quand tu vas voir ton médecin.
Je sais que tu bouges beaucoup partout en France et à l'étranger aussi. Est-ce que par rapport à tes voyages en France, est-ce que tu pourras dire à nos auditrices, nos auditeurs, un parent qui se trouve avec un enfant qui a un problème de trouble de comportement, est-ce que, c'est un peu délicat ma question, mais est-ce qu'il y aura la même facilité de recherche de soins, qu'il soit à Lyon, qu'il soit à Marseille, qu'il soit à Montauban, qu'il soit à Paris, ou par rapport à ton expérience, il y a quand même encore un manque de professionnels au niveau de la France pour prendre en charge ces types d'enfants.
Alors, on va pas se mentir, il y a un manque de professionnels de partout. On n'a pas du tout anticipé le fonctionnement sanitaire de la France. On a mis des numerus clausus au niveau des médecins, au niveau des infirmières, et on va mettre 10 ans pour s'en remettre. Et tu sais bien, moi, je suis le premier, on est toute une génération de baby-boomers où on va s'arrêter de travailler alors que notre suite n'est pas prête. D'abord parce qu'ils sont pas assez nombreux, et puis là encore, hein, on va parler vrai, les jeunes générations, et à mon avis ils ont raison, ils veulent pas travailler comme nous. Et t'as le même problème dans le bâtiment, t'as le même problème dans les médias, t'as le même problème dans la restauration. C'est-à-dire que tu sais très bien, puisque tu es médecin, que nos internes, eh bien à 18h, ils rentrent chez eux et ils vont pas faire des heures supplémentaires comme on l'a fait nous, travailler le week-end. Tu peux pas leur demander tout ça. Donc il y a un vrai problème. Et je rassure tous vos auditeurs, que vous soyez à Montauban, que vous soyez à Lyon, que vous soyez à Paris, que vous soyez à Nice, eh bien vous avez les mêmes problèmes. C'est-à-dire que de partout. Moi, je reçois des appels de partout en me disant on est dans un désert médical, y compris en Île-de-France, tu vois où on en est. Donc, non, c'est qu'il y a inadéquation entre ce que les parents ont compris et sont informés maintenant des troubles de leur gamin, et ils se font déjà un pré-diagnostic, et la possibilité d'accès aux soins, où, tu regardes les médecins généralistes, où que tu sois, mais t'en trouves pas, et où tu mets plusieurs mois d'attente. Et c'est un peu préoccupant, et c'est un peu déprimant pour les parents, parce que ils ont le diagnostic vraiment en ligne de mire, ils savent qu'est-ce qu'il faudrait faire, et il n'y a personne pour leur répondre.
Olivier, bon, c'est un sujet très intéressant, mais le temps passe. Est-ce que il y a un conseil important que tu veux donner aux parents par rapport à leurs enfants, leurs adolescents, s'ils se retrouvent en difficulté? C'est vrai que tu as déjà parlé beaucoup de choses, mais est-ce qu'il y a un message clé à passer par rapport les troubles qu'on trouve chez nos adolescents actuellement?
Alors, le message clé, il est simple. Hein. Quelles que soient les difficultés de votre ado et de votre enfant, amour inconditionnel. C'est-à-dire que même s'il correspond pas exactement à ce que j'attendais, même s'il n'avait pas prévu ça pour lui, même si j'envisageais d'autres études, d'autres troubles, d'autres comportements, d'autres choix sexuels, je l'aime. Je t'aime et je te le dis. J'ai le droit de te faire des remarques sur le fait que je suis pas d'accord avec tout, mais je serai toujours là. Et la preuve, tu vois, avec 40 ans de recul, je peux te le dire, les enfants, les adolescents les plus difficiles que j'ai vus, eh bien, si on n'a pas lâché, s'il y a eu à un moment donné une alliance thérapeutique entre la famille, l'adolescent et les soignants, eh bien, ils vont bien maintenant. Et non seulement ils vont bien, ça c'est un message important pour les parents, mais ils vont mieux que ceux qui n'ont pas eu de problème. C'est-à-dire que, il y a une métaphore qui va parler à tout le monde, c'est que une mer facile, une mer MER, ça n'a jamais fait un bon marin. Si t'as appris à naviguer sur le lac d'Annecy, tu feras jamais une transat. En revanche, si t'as eu des tempêtes pendant que t'étais jeune, eh bien, t'as appris à gérer tout ça. Donc, bien sûr que c'est compliqué. C'est plus facile d'élever un enfant facile, un adolescent facile. Pas sûr qu'un jour, eh bien, il sera aussi facile que ça, et que finalement, une crise d'adolescence un peu compliquée, un gamin qui est pas tout à fait dans les clous à un moment donné, à condition qu'on soit accompagné, à condition qu'on ne lâche pas, à condition qu'on ne lui reproche pas son comportement, et c'est le deuxième conseil que je vais donner à vos auditeurs, ne mélangez pas comportement et personnalité. Vous pouvez lui dire, quand tu adoptes ce comportement, c'est insupportable. C'est dommage que tu aies un petit garçon ou une petite fille adorable. Mais si on lui dit « tu es vraiment insupportable », là, tu fais courir le risque que son problème de comportement impacte l'estime de lui avec des conséquences à moyen et long terme.
Est-ce que tu pourras conseiller 3 ou 4 bouquins pour les parents qui souhaitent s'informer un peu plus sur le sujet? Je sais que tu as écrit des très bons bouquins, tu peux aussi indiquer tes bouquins, aucun problème, mais est-ce que tu peux indiquer aux initiés pour avoir une idée? Bon, il faut toujours chercher le médecin, bien sûr, mais déjà pour les parents, pour savoir comment ils peuvent faire, avoir déjà une notion un peu plus importante, est-ce que tu peux citer 3 ou 4 bouquins?
Je suis désolé, il y a que les miens qui me viennent en tête.
Tu peux le dire, hein, c'est vraiment...
Donc, pour les ados, non, il y en a un qui vraiment marche bien, et puis en plus je l'ai appuyé sur mon expérience personnelle avec 4 enfants qui n'était pas très simple. Ça s'appelle J'ai un ado mais je me soigne, hein, où on explique qu'est-ce que c'est que l'adolescence normale et comment on peut réagir face à certains comportements qui nous dépassent. Si c'est un enfant qui a des troubles d'attention, j'ai été formé au Canada par une neuropsychologue qui a écrit un livre qui s'appelle 100 idées pour aider les enfants ayant un trouble d'attention. Elle s'appelle Francine Lucier. Et puis pour l'école, moi j'ai écrit Même pas grave, l'échec scolaire ça se soigne. Et puis, il y a certainement plein d'autres bouquins grand public qui nous aident à comprendre nos enfants et nos ados et surtout à décontaminer l'ambiance. C'est-à-dire qu'il y a plein de petites situations qui paraissent très compliquées pour les parents et qui ne sont pas si graves que ça.
Bon, le temps passe. Est-ce que tu as un message final à adresser à nos auditrices ou nos auditeurs avant qu'on finalise notre émission?
Je dirais que la première chose, c'est de comprendre qu'il y a eu un vrai fossé, un vrai changement dans les générations. Et donc, on n'est pas en train de faire comme chaque génération a dû faire depuis 200 ans. C'était mieux avant, c'est la catastrophe maintenant. Il faut que tout le monde ait conscience que dans la transmission de l'information, c'est-à-dire l'éducation, la santé, l'enseignement, il n'y a eu que 3 révolutions dans le monde. Il y a très très longtemps l'écriture, on est passé de l'oral à l'écrit, il y a moins longtemps l'imprimerie et 95 Internet. Et que ce qui s'est passé en 95 avec Internet, c'est unique dans l'histoire de l'humanité. Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, la transmission de l'information, c'est-à-dire l'éducation de nos enfants, c'est plus vertical, descendant, c'est horizontal. Et pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, quand nos gamins ont besoin de savoir quelque chose, ils ne le demandent pas à nous, parents. Quand nos élèves ont besoin de savoir quelque chose, ils ne le demandent pas à nous, ils vont voir sur Internet. Et même, c'est plus compliqué que ça, pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, des enfants ont appris des choses à leurs parents. Parce que ces enfants, ils ont grandi avec les nouvelles technologies. Et il faut qu'on accepte de se laisser enseigner par nos enfants. Il faut qu'on sorte du système dans lequel on a grandi, où puisque c'est moi qui le dis, j'ai raison. C'est terminé ça, tu ne peux plus dire ça. Donc je vais te donner, puisque tu veux une punchline pour terminer, hein, elle est très claire, c'est avec les jeunes du 21e siècle, il faut convaincre plutôt que contraindre. Tu peux plus leur dire c'est comme ça et pas autrement. Je te donne juste un exemple pour l'illustrer, le téléphone le soir. Nombre de parents qui me disent « mais il est dans sa chambre avec son téléphone et il s'endort pas ». On lui demande, on exige son téléphone et ça explose. Non, tu l'exiges pas. Tu leur dis « je vais t'expliquer pourquoi ton téléphone il est pas bon le soir ». Parce que quand tu regardes ton téléphone, eh bien, il envoie une fausse nouvelle à ton cerveau comme quoi c'est encore le jour. Et ça décale la sécrétion de mélatonine qui est l'hormone du sommeil. Et si on te dit ça, c'est que c'est dommage parce que c'est pendant les premières heures de sommeil que tu imprimes ce que tu as entendu à l'école. Que ta peau devient douce, que tes cheveux deviennent soyeux, que les muscles que tu as essayé de forger, parce que tous les garçons font de la musculation, ils vont prendre de la masse. Donc, convaincre plutôt que contraindre. On peut plus dire c'est comme ça et pas autrement. On doit lui dire c'est pour ça que je veux pas que tu fumes, que tu boives. Et il y a toujours un sens à ça.
Merci beaucoup Olivier, je serais pas étonné que tu commences à recevoir des appels, pas d'Île de France, mais Tarn-et-Garonne maintenant. Sache quand même que notre antenne est toujours ouverte, tu es toujours le bienvenu, pas simplement à l'antenne, mais à la maison aussi, je t'avais dit. Merci beaucoup pour ton temps, je sais que tu es quelqu'un très pris, merci d'avoir donné des explications pour ce sujet qui est très vaste, très varié. Merci beaucoup de ton temps.
Merci à vous.
Bon, je te passe l'antenne.
Merci Anundo, merci docteur Revol, je retiendrai une chose. L'amour et la bienveillance pour l'éducation. Cette émission vous a plu, vous voulez la réécouter, pas de problème, un seul site, elle est disponible en podcast sur notre site www.farfm.com, rubrique La santé, c'est l'affaire de tous.